Bon allez, c'est mon deuxième débat de midi, on est presque intime, je peux vous faire une confession. Je reviens de vacances et comme beaucoup de juilletistes, j'ai reçu hier un lot de mails provenant de tous les établissements que j'ai fréquentés pendant mon séjour et qui m'invitaient à évaluer la qualité des différents services dont j'ai profité. Alors oui, c'est vrai, j'ai pris le temps de noter la qualité de la literie de l'hôtel, d'écrire que la pizza 4 fromages du restaurant où j'ai déjeuné un 22 juillet était trop salée, et de mettre en garde les internautes du site TripAdvisor sur la propreté des toilettes, sur l'aire d'autoroute du péage de Saint-Arnoult. C'est que l'évaluation permanente des services et des activités, c'est devenu une norme, c'est devenu un réflexe. On note, on juge, on disqualifie, on grogne. Et moi, ça me semblait assez normal jusqu'à ce que Lucie Lemarchand, réalisatrice du débat de midi, me fasse découvrir hier un site internet qui s'appelle topjournaliste.fr. C'est un site web qui permet de classer et de noter les journalistes comme on évalue désormais les pizzas, les courses en taxi ou le SAV de son opérateur téléphonique. C'est ce que l'écrivaine Anne-Caroline Pocot appelle le tyrannotage, la tyrannie de la note et de l'obsession de l'évaluation qui sévit aujourd'hui. C'est un mot valise qui m'en a rappelé d'autres. Journalop, merdia, gauchias, médiature, ce sont des néologismes injurieux qui sont employés essentiellement sur les réseaux sociaux, mais pas que, pour accuser les journalistes de manquer d'objectivité, de mentir, de régler des comptes. Et c'est donc le sujet du débat de midi. On va se demander si le contrat entre le journaliste et le lecteur est rompu, si un journalisme pur, totalement impartial, a jamais existé. C'est le menu du débat de midi.
Le débat de midi. Nadia Dame sur France Inter.
Et j'accueille mes quatre invités en direct dans ce studio. Il fallait au moins quatre invités pour débattre d'un sujet aussi compliqué. Faïza Serwala, bonjour. Vous êtes journaliste à Mediapart. Vous êtes spécialiste des questions d'éducation. Et vous êtes également la coprésidente de la Société des journalistes de Mediapart. Alors je précise, puisque tout le monde connaît pas forcément les petites cuisines des rédactions, une SDJ, c'est la structure à l'intérieur des rédactions qui veille au respect de l'indépendance journalistique. C'est la vigie de la déontologie, c'est bien ça?
Tout à fait.
Géraldine Mulman, bonjour.
Bonjour Nadia.
Vous êtes professeur de sciences politiques à Paris 2. Vous avez publié notamment une histoire politique du journalisme aux éditions du Seuil. Dominique Pradalier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes secrétaire général du syndicat national des journalistes, on dit SNJ pour aller vite. Et puis en duplex par téléphone depuis les studios de France Bleu Périgord, Alexis Lévrier, bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Vous êtes maître de conférence à l'université de Reims et spécialiste de l'histoire du journalisme. Je voudrais vous poser une première question très simple, mais pour poser les bases de la discussion, pour comprendre de quoi on parle, de quoi il s'agit quand on parle de crise de confiance envers les médias. Il y a une citation qui revient beaucoup, c'est celle du fondateur du journal Le Monde, Hubert Boeuf-Méry, qui disait « l'objectivité n'existe pas, l'honnêteté oui ». Alors de quoi on parle? On parle d'objectivité, d'honnêteté, de neutralité, d'impartialité. Géraldine Mulman, de quoi on parle? Quels sont les bons mots?
Alors, le mot objectivité, longtemps n'a pas existé dans ce métier. Le journalisme moderne est né dans la deuxième moitié du 19e siècle, avec la figure du reporter. Et il a été surtout inventé aux États-Unis, puis il s'est diffusé dans les démocraties occidentales. Et là, le contrat que le reporter établissait avec son public consistait à taire en lui au maximum, c'était l'injonction des rédactions, ses opinions les plus évidentes sur un sujet, c'est-à-dire son moi opinant, pour laisser parler en lui, au contraire, son moi sentant, c'est-à-dire tous ses sens en éveil, aller sur place et raconter. C'est le passage du discours, l'éditorial étant l'ancien genre journalistique, qui a de sa noblesse évidemment, mais là on est passé à un autre moment, qui est le cœur du journalisme moderne. Le reportage, c'est pas du discours, c'est du récit. Et là, donc ce que je veux juste dire, c'est que c'est un jeu, c'est un sujet, c'est un moi qui va sur place, qui témoigne, ça a à voir avec la figure du témoin. Un témoin qui essaye de parler au nom de tout le monde, d'être recevable dans ce qu'il va dire, dans ce qu'il va raconter par le plus de monde possible. Le problème, oui, c'est la question de l'honnêteté, c'est souvent la question de la vérité factuelle, c'est la règle journalistique.
Est-ce que c'est pas ça la mission principale avant tout du journalisme, c'est de rapporter des faits vérifiés?
Je pense que c'est la règle la plus importante. Dans le bureau de Joseph Pulitzer, qui a donné son nom à un très grand prix américain, il y avait dans tous les bureaux placardés accuracy, 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 ce qui veut dire en anglais exactitude factuelle. Bon, c'est difficile pour nous à dire, c'est moins joli, moins amant. Et c'est la règle, elle est faillible, c'est difficile, la notion de fait, on peut en discuter épistémologiquement, comme on dit, très très longtemps, surtout dans un pays qui n'aime pas beaucoup les sens, comme la France. Nous sommes des cartésiens, nous savons que les sens peuvent nous tromper, mais ça reste la règle de base si on ne veut pas faire les plus grandes bourdes journalistiques de l'histoire du XXe siècle.
Dominique Pradalier, est-ce que ça peut être une vérité quasi scientifique l'objectivité des journalistes. Est-ce que ça peut se mesurer scientifiquement? Est-ce qu'on peut avoir un baromètre de l'objectivité de la presse française aujourd'hui?
Ah, de la presse française, c'est compliqué. En tout cas, je rejoins complètement Géraldine Mühlmann sur le fait que l'objectivité a disparu de notre profession, moi, depuis très très longtemps. On ne parle plus que d'honnêteté. Pourquoi? Parce que nous sommes tous subjectifs et subjectives. Chaque citoyen, chaque auditeur, chaque auditrice, comme nous. Et nous, on s'attache à l'honnêteté. Et pour pousser un tout petit peu plus loin la réflexion si bien entamée précédemment, nous ne souhaitons pas qu'on parle de vérité, qui est aussi une notion extrêmement fluctuante selon les personnes, mais de réalité. Et les journalistes sont là pour dire la réalité de ce qu'ils ont vu. Et ceci nous mène à un des points de la crise que nous vivons actuellement dans les rédactions, quand il existe encore des rédactions, c'est que de plus en plus vous avez des hiérarchies plutôt pléthoriques et très peu de journalistes sur le terrain. Et un des bons points que nous apporte le mouvement des Gilets jaunes, c'est de réveiller l'instinct de terrain que tous les journalistes non seulement devraient avoir, et ont très souvent, mais devraient faire respecter. Voilà, aller sur le terrain, aller voir, et ne pas se contenter de dire j'ai une dépêche d'une agence, j'ai vu sur le réseau social...
Ce qu'on appelle le journalisme assis.
Voilà, le journaliste assis devant un écran, le journal, alors que le principe de base du journalisme est d'être sur le terrain.
Ouais, on va tâcher de continuer à apporter des définitions et on va surtout poursuivre la discussion. C'est juste après le nouveau projet de Limi Nanaz et de la chanteuse et actrice Emmanuelle Seignet. Ça s'appelle L'Épée, avec un extrait de leur nouvel album Dreams. Il est midi 14 sur France Inter, c'est le débat de midi, une émission préparée par Anna Masserdi et Camille Kaufmann. À la technique aujourd'hui, Léo Prangère et Jérémy Guillon. Et on interroge aujourd'hui l'accusation faite aux journalistes d'être militants et d'avancer masqués. Faïza Zerwala, il y a un débat actuel en ce moment qui se concentre autour de certains journalistes bien précis, bien identifiés, pour savoir se demander s'ils sont journalistes. Cette question, elle était posée à propos de Christophe Barbier récemment, ou encore à propos du reporter Gaspard Glanz qui a couvert le mouvement des Gilets jaunes. Qui est journaliste et qui ne l'est pas, et comment on le décide ?
Alors ça, c'est une caractéristique du propre au métier de journaliste. Ce n'est pas une profession réglementée. Il n'y a pas de conditions d'accès. Vous pouvez faire une école, mais une école de journaliste, mais ce n'est pas obligatoire. La possession, pardon, de la carte de presse n'est pas non plus une condition sine qua non pour exercer le
On
métier.
On peut être journaliste sans avoir une carte de presse.
Tout à fait. Vous avez toute une palanquée de journalistes pigistes qui sont souvent très précaires, qui n'ont pas suffisamment de revenus ou des revenus trop aléatoires pour justifier la possession de la carte de presse, alors que souvent ce sont des journalistes qui alimentent vos journaux et qui sont, enfin, qui réalisent un vrai travail de journaliste. Ce débat, à mon sens, entre qui est journaliste, qui ne l'est pas, il y a quand même une volonté de disqualifier une forme de nouveau journalisme qui émerge. Par exemple, Gaspard Glanz, dont on a beaucoup parlé, qui avait eu une interdiction de paraître à Paris, donc qui ne pouvait pas couvrir les manifestations des Gilets jaunes, ce qui handicape son travail, clairement. Gaspard Glanz, lui, il est sur le terrain, il filme, sans commentaire, les événements sur le long. Il y a un côté un peu spectaculaire pour certains, mais à mon sens, c'est la même chose pour Taha Bouafs. Taha Bouafs, faut rappeler que
c'est un autre
reporter qui travaille pour le site Là-bas si j'y suis, qui est un site d'information. Il a un contrat de journaliste, donc quand bien même Taha Bouafs n'a pas de formation académique, à mon sens, tant que les personnes fournissent un travail journalistique et se conforme aux règles de base du journalisme, à savoir vérifier les faits, ne pas colporter de rumeurs non vérifiées, ce genre de choses. Pour moi, c'est vraiment, on ramène le débat sur des personnes parce que finalement, ce sont des journalistes qui n'entrent pas dans le profil habituel.
Alexis Lévrier, Faïza Zeroula vient de décrire ces deux personnes comme des nouveaux journalistes, comme une nouvelle forme de journalisme. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Et est-ce que, effectivement, filmer une manifestation des Gilets jaunes avec son téléphone portable ou une caméra sur son casque, c'est quelque chose qui se rapproche de l'objectivité ou de la neutralité? Est-ce qu'on n'a pas un point de vue aussi quand on filme des manifestants de cette façon-là?
Bien sûr, et le point de vue, il est d'autant plus fort qu'il est caché, si vous voulez, qu'il est dissimulé. Moi, quand je vois, par exemple, ce que font les journalistes de Brut qui vont dans les manifestations qui étaient très appréciées des Gilets jaunes, comme Rémi Buisine, les Gilets jaunes disaient, voilà, c'est la vérité, ils nous filment, il n'y a pas de filtre, il n'y a pas de médiation, c'est du direct. La médiation, elle existe toujours, selon l'angle de où vous placez votre téléphone, les personnes que vous choisissez d'interroger, évidemment qu'il y a une subjectivité. Donc, la subjectivité, elle est d'autant plus forte qu'elle est dissimulée. Après, pour ce qui est de Gaspard Glanz ou de Taha Bouafs, on a eu ce débat avec Faïza il y a un mois sur France Culture et donc moi je dirais que Gaspard Glanz, ça fait pour moi aucun doute, et évidemment que le fait qu'il n'ait pas de carte de presse ne le disqualifie pas comme journaliste. La carte de presse a été créée en 1936 et il y avait des journaux depuis 3 siècles, donc on va pas considérer que la carte de presse est l'alpha et l'oméga du journalisme. Et Gaspard Glanz, ça fait une dizaine d'années qu'il est comme ça, un journaliste reporter au cœur des manifestations, engagé, mais comme vos intervenants
engagé ou militant, et est-ce qu'il faut faire la distinction? C'est un journaliste engagé ou un journaliste militant?
Militant, ça déborde plus vers l'activisme. Je ne sais pas s'il est militant ou engagé. Ce que je constate, c'est qu'il ne produit pas de fake news. Et c'est ça la base du journalisme. Vos intervenants l'ont rappelé, il faut respecter les faits, il faut respecter l'exactitude des faits. Donc pour moi, dans la mesure où il n'a jamais, à ma connaissance, fabriqué de fausses informations ou contribué même à les diffuser, son travail journalistique ne fait aucun doute. Pour ce qui est à Abouaf, j'avais plus de réticence parce que son arrivée dans le monde du journalisme est très récente. En fait, il travaille pour Là-bas si j'y suis depuis quelques mois seulement. Et ce qu'on rappelait toujours comme étant son fait d'armes journalistique n'était pas...
Et alors, est-ce que c'est parce qu'il vient d'y arriver que ça le disqualifie? Je comprends pas.
Absolument pas. Simplement, il a. Et en plus, pour tout dire, je l'ai rencontré au Festival de Couture, là, qui est organisé par Le Monde tous les ans.
Et Festival du journalisme.
Toi, sympathique. Oui. Voilà. Et moi, je lui souhaite vraiment une belle carrière journalistique. Il est au tout début, contrairement à Gaspard Glanz. Simplement, ce qu'on cite toujours comme étant son fait d'armes journalistique, c'est le fait d'avoir filmé Benalla. Il est l'auteur de la fameuse vidéo
Place de la Contrescarpe
d'Alexandre Benalla. Voilà, mais il faut quand même rappeler que à l'époque, lui-même ne se définit pas comme journaliste, il est militant politique et il se trouve qu'il est là au bon moment, mais il ne fait pas de travail journalistique, il met cette vidéo en ligne, mais c'est le travail du Monde, c'est le travail d'Ariane Chemin qui a permis d'identifier Alexandre Benalla. Donc moi, ce que je redoute simplement, c'est ces nouveaux profils font du bien au journalisme parce qu'ils obligent la presse à s'interroger sur elle-même, à faire son autocritique, c'est toujours une bonne chose. Mais quelqu'un qui filme une manifestation n'est pas forcément journaliste. Ça ne suffit pas de filmer une manifestation en direct pour faire de vous un journaliste, sinon nous serions tous journalistes et je crois qu'on n'a pas intérêt à véhiculer cette idée-là. L'horizontalité, c'est un mythe, cette idée que finalement chaque lecteur ou chaque auditeur ou chaque spectateur serait lui-même un journaliste ou pourrait les concurrencer, je trouve ça extrêmement dangereux.
Géraldine Ullmann, on a assisté, et c'était assez spectaculaire, à une hostilité de la part des Gilets jaunes envers les journalistes, pas tous les journalistes, parce que effectivement, on vient de le dire, certains d'entre eux ont eu les faveurs des Gilets jaunes, Brut, vous le disiez, ou encore la chaîne qui est financée par l'État russe, qui s'appelle Russia Today, RT. Comment est-ce que vous expliquez que ces deux-là aient échappé à l'hostilité Pourquoi est-ce qu'un média comme Brut, Vidéo, et un média russe est considéré comme plus fiable que Libération, Le Monde?
Parce que le journalisme, dont personnellement je n'ai aucune définition, c'est pas une essence, c'est même pas une profession, c'est un acte. N'importe qui peut faire acte de journalisme sans être un journaliste professionnel, pour ma part je le pense. Et on n'est d'ailleurs pas que journaliste, hein, les journalistes ne sont pas que des journalistes, ils peuvent aussi avoir des opinions et à ce moment-là ils sont dans autre chose, ils discutent sur Twitter comme... Tahabouaf, qui n'est pas journaliste toute la journée, ça c'est clair, il suffit de voir ce qu'il raconte sur Twitter. Par contre, de temps en temps, il l'est. Donc c'est comme ça que je vois les choses. Et pour répondre à votre question, je pense que de part des parties importantes de la population, c'est pas spécifique à notre démocratie, mais aussi en France, ont l'impression que les journalistes ne viennent plus dans certains lieux depuis un certain temps. Je me souviens quand Florence Aubenas a publié au début des Gilets jaunes son grand papier dans Le Monde, elle a dit clairement, on n'avait plus vu ces gens-là sur les écrans de télé. Et de fait, je trouve qu'il y a une manière de parler, une manière d'être, qu'on n'entendait plus, on ne racontait plus un certain monde suffisamment dans les journaux. Plein de gens le pensaient. C'est pas du tout la faute comme ça des reporters, une espèce de responsabilité individuelle. C'est aussi lié à l'organisation d'un métier, à certaines contraintes économiques. On considère, j'ai là-dessus quelques réserves, parce que le reportage coûte certes cher. Hein. On considère que ça coûte cher, mais il faut jamais oublier que c'est aussi ce que les gens aiment le plus. Hein. Ils aiment beaucoup plus ça que les débats. Donc voilà, je pense qu'économiquement, ça peut aussi se
discuter. Les éditorialistes coûtent aussi très cher.
Oui. Mais en tout cas, voilà, il y a une partie du monde. Beaucoup de gens ont eu l'impression qu'on n'en parlait plus. Et donc, les journalistes, peu importe qu'ils soient professionnels, pigistes, sur n'importe quel réseau, je ne fonctionne pas comme ça. Je fonctionne par geste, par acte. Ceux qui ont fait des actes journalistiques en allant auprès d'eux et en les racontant, ceux-là, oui, ont soudain acquis un crédit à la mesure du discrédit dont souffrait le reste de la profession.
Dominique Pradallier, vous venez de distinguer les éditorialistes et les journalistes, c'est pas pareil ? Un éditorialiste, c'est pas un journaliste ?
Non, je n'ai pas distingué les éditorialistes des journalistes, j'ai distingué les éditorialistes des journalistes de terrain. Ouais. Un éditorialiste, ça peut être un journaliste, c'est pas toujours un journaliste, ça peut être un journaliste. Mais cette histoire de disqualification, ou de tenter de disqualifier nos jeunes confrères, dont parlait si bien Monsieur Lévrier, est en fait une des pierres lancées contre la profession tout entière depuis quelques années par les pouvoirs en place, malheureusement reliés par beaucoup trop de propriétaires des médias. Je veux dire par là que on va dire ah oui mais celui-là il est pas tout à fait journaliste, il l'est pas depuis longtemps, etc., etc., pour disqualifier le journalisme de terrain qui n'est pas un nouveau journalisme ni une nouvelle forme de journalisme du tout, qui est le journalisme de base. Or notre profession est maintenant dans un étau de lois liberticides sur la loi renseignement, la loi sur le secret des affaires qui nous menace en permanence, la loi sur les fake news, etc., qui fait que nos hiérarchies déjà très frileuses, voire pires, nous interdisent ou ne veulent pas que nous allions sur le terrain, ou nous empêchent d'aller sur le terrain, au motif que ça coûterait cher. Quand la profession et le SNJ en tête a reconnu non seulement Gaspard Glantz, Tahabouaf, mais aussi Alexis Kraland, mais aussi Brice Ivanovitch qui a fait 83 heures de garde à vue, c'est pour dire nous sommes tous solidaires de ces journalistes qui font un vrai travail de terrain. Et on a parlé du fait que les Gilets jaunes ont attaqué, injurié, agressé des journalistes dans les premières semaines de leur manifestation, pour la bonne et simple raison qu'ils ne faisaient pas la différence qu'ils ont faite après entre journalistes et médias. Et dès lors qu'ils ont fait la différence entre journalistes de terrain et médias, les agressions ont cessé quasiment toutes. En revanche, malheureusement, les forces dites de sécurité ont pris le relais et on n'en parle jamais, ou quasiment jamais. Il y a plus de 150 journalistes, plus de 150 journalistes qui ont été empêchés de travailler, insultés, cartes de presse volées, matériel cassé,
agressés physiquement,
blessés gravement, et non pas dans des charges de police ou dans des affrontements, mais ce que les anglo-saxons appellent « not in action », c'est-à-dire au repos, identifiables comme journalistes. De très nombreuses plaintes sont déposées actuellement. Et ça, c'est quelque chose qui est la plus grande omerta actuelle sur les difficultés de travail des journalistes. Et après, on va étonner que les directions ne veuillent pas envoyer des journalistes sur le terrain. Eh bien, les journalistes eux-mêmes et certains des SDJ que nous avons vus quand nous sommes allés défendre le droit des journalistes et la liberté de la presse, nous disent qu'ils ont peur. Ils ont peur des forces de l'ordre. Je n'ai jamais entendu ça avant. Jamais, jamais, jamais. Pourtant, les manifestations étaient très dures en France, comme elles le sont à l'étranger. Mais le parti pris d'agression et d'impunité contre les journalistes et la liberté de la presse est quelque chose qui fait l'objet actuellement, d'ailleurs, d'études des rapporteurs spéciaux de l'ONU, qui sont venus à Paris, du Comité économique, social et environnemental européen, de la commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe, etc., qui se penche sur la France en disant « Mais que se passe-t-il ? Mais qu'est-ce que c'est que cette impunité ? Pourquoi on empêche les journalistes d'être témoins ?»
Vous parlez de la France, Alexis Lévrier. Est-ce que c'est un problème uniquement français, à la fois ces menaces physiques et aussi cette défiance vis-à-vis de la presse? Est-ce que c'est un problème strictement français ou est-ce qu'on l'observe ailleurs? Et est-ce que c'est aussi lié aux pays touchés par ce qu'on appelle le populisme?
Oui, bien sûr. On l'observe ailleurs. On sait bien que la campagne américaine de 2016 s'est focalisée sur cette question-là et que Donald Trump doit une partie de son élection et de sa popularité aujourd'hui à ses attaques contre la presse. Donc, c'est une des caractéristiques du populisme dans tous les pays que d'exploiter cette défiance à l'égard des médias. Je suis d'accord avec tout ce que vient de dire Dominique Pradallier, sauf sur un point. Je crois que ce qui a caractérisé le mouvement des Gilets jaunes, c'est effectivement les violences policières, et ça, il faut tout à fait le dénoncer, violences policières qui s'exercent aussi contre les journalistes. Mais les violences contre la presse de la part des Gilets jaunes existent, elles ont existé d'emblée, et elles continuent. Elle continue. Moi, j'enseigne en Champagne-Ardenne. Je sais que des journalistes de l'Ardennais, donc un quotidien de ce département des Ardennes, ont été agressés le samedi 27. D'abord dans leur rédaction elle-même.
Vous n'avez pas l'image, mais Dominique Pradallier fait la moue. Elle a pas l'air de vous
croire. C'est un peu plus compliqué que ça, cher ami. Un peu plus compliqué, mais effectivement, quelques journalistes de l'Ardennais ont eu quelques difficultés. Mais l'affaire est quand même plus compliquée que ça. Excusez-moi d'intervenir.
Je vous en prie, mais moi, c'est pas les échos que j'ai eus. J'ai des anciens étudiants qui y travaillent. Je vois et j'ai aucune forme de tolérance pour ça. J'avoue, je trouve que la critique doit être est tout à fait normale. Mais ces agressions, ces brutalités, il y a même eu des tentatives de viol. Il y a eu des scènes de lynchage au début du mouvement à Toulouse, par exemple. Ce sont des choses qu'il faut dénoncer avec la plus grande fermeté. Même à Couture, que j'évoquais tout à l'heure, le festival, les journalistes du Monde, Florence Obnas et d'autres, ont fait l'effort de rencontrer le public. On a entendu des choses inouïes. Sur justement cette question de l'objectivité. Vous n'êtes pas objectif, vous êtes tous des... Vous évoquiez les termes, la journalope, prostituée. Ce sont des termes qu'on a entendus à Couture, qu'on continue à entendre. Et avec cette critique, elle existe depuis le XVIIe siècle, sauf que ce qui est nouveau avec les Gilets jaunes, en tout cas ce qui me semble nouveau, c'est la brutalité physique. On a franchi un cap, et ce cap, il est gravissime, il faut le dire.
On va quitter un moment cette question des gilets jaunes, parce qu'il y a un autre point dans l'actualité. Il y a eu un moment assez lunaire à la mi-juillet, c'était au moment des révélations de Mediapart à propos de François Drugy. On a vu des journalistes à la télévision s'en prendre aux journalistes de Mediapart. Je vous cite deux bandeaux qui sont affichés en bas de l'écran de LCI et de BFM. Mediapart en voulait à Drugy, Mediapart accusateur public. Géraldine Mulman, comment est-ce qu'il faut analyser, comprendre ce conflit entre journalistes sur des plateaux télé et quelle image est-ce que ça renvoie au public des journalistes qui s'invectivent entre eux?
Écoutez, moi je pense de Mediapart ce que je pense de tous les journalistes, quels qu'ils soient, quand ils font du terrain, quand ils le font bien, quand ils font de l'enquête, quand le matériau factuel est correct, quand ils s'excusent si jamais ils font une erreur, parce que ça arrive aussi au meilleur. Je suis avec Mediapart, je suis avec ceux qui font du terrain. Dans le cas de l'affaire de Drugy, bon, c'est toujours difficile parce que les autres n'ont pas enquêté, donc on ne sait pas forcément si tout est impeccable, hein, et puis il arrive que les enquêtes ne le soient pas. Là, en l'occurrence, il y avait quand même pas mal d'éléments, bon, sur lesquels, par exemple, les photos, on pouvait se demander, tiens, comment ont-elles été cadrées, on aura peut-être un point de vue de Drugy. Moi, j'ai fait partie des gens, j'ai pris tout ce qu'a fait Mediapart, j'ai trouvé que c'était important, intéressant, mais évidemment, je me demandais si Monsieur Drugy avait des justifications à porter. Ça s'entend, le droit de la défense, comme a dit Emmanuel Macron, je suis d'accord. Bon, après, il y a eu cette démission brutale. Évidemment, ça donnait l'impression, on peut pas l'empêcher. Moi, j'ai pas compris pourquoi il démissionnait s'il était si innocent. Enfin, ça donnait l'impression que c'était affligeant et qu'il ne pouvait faire que démissionner. Alors qu'il y a eu des règlements de compte avec Mediapart. Bon, je pense que ça tient d'une part au fait que les journalistes qui ne sont pas les enquêteurs, c'est les autres qui font l'actu, hein, quand ils font le buzz, quand ils ont enquêté. Il y a une jalousie, il y a une rivalité, mais qui n'est pas spécifique au cas Mediapart. Il y a peut-être un tout petit autre problème avec Mediapart, c'est que Mediapart, encore une fois, je trouve que sur les enquêtes, c'est très intéressant, mais il y a aussi une autre figure de Mediapart qui est, elle, plus militante et plus éditorialisante. Parfois, Mediapart, par ses figures, peut aussi donner un point de vue, faire un édito. Je vais vous donner un exemple très concret, historique. Quand Albert Londres, en 1923, fait au bagne, pour dénoncer la situation au bagne de Cayenne, il dit pas « il faut fermer Cayenne », et il donne pas un projet de réforme, il dit pas « moi je bosse et les autres ne foutent rien ». Bon, vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas de position comme ça. Bon, il arrive, et encore une fois, beaucoup moins souvent qu'on ne le dit, mais c'est l'image de Mediapart, il arrive que Mediapart donne l'impression un peu, je dirais, du chevalier blanc dans une profession qui qu'il regarde avec un peu de beaucoup de critiques, parfois fondées, mais c'est une question de position. Bon, moi, ça m'intéresse pas beaucoup. Je pense que ça passionne cette profession qui adore détester Mediapart. Ça, je suis d'accord avec vous. Moi, j'adore pas du tout détester Mediapart. J'aime beaucoup Mediapart quand ils font leur boulot et pas l'édito et ça. C'est-à-dire quand ils enquêtent et font du terrain. Voilà tout ce que j'ai à dire.
Faïsa Zerwala,
on va écouter Faïsa Zerwala, journaliste,
oui,
à Mediapart.
Mais juste d'un mot, le SNJ est la rédaction d'où est issu le rédacteur en chef qui a attaqué Mediapart, a fait un tract public le condamnant complètement, cet intrus.
Faïsa Zerwala.
Oui, alors donc il y a beaucoup de choses dans ce que vous venez de dire. C'est toujours très drôle de voir le contraste entre la perception extérieure de Mediapart et la réalité de Mediapart quand vous dites je préfère quand Mediapart fait du terrain. Mediapart fait du terrain.
Mais c'est ce que j'ai dit, hein.
Oui.
C'est l'essentiel de ce qu'il fait. Je suis d'accord.
En réalité, on fait du terrain tout le temps. Il y a évidemment ces enquêtes, mais sur, par exemple, les gilets jaunes dont on parlait, mes collègues du service social sont vraiment allés au plus près du terrain et continuent à suivre ce mouvement, alors que ailleurs, on voit que l'intérêt s'est un peu émoussé. Mais pour revenir à François Drugy, c'est très c'est assez révélateur en effet d'une forme de discrédit qui est toujours porté sur le messager. François Drugy, là, sa ligne de défense, c'est de dire que Mediapart lui en veut personnellement. Non, Mediapart lui en veut pas personnellement. François Drugy, on a eu les informations par différents canaux. Évidemment, ce qu'on nous reproche après, c'est de feuilletonner, mais en réalité, c'est juste que une information attire une autre information. D'autres sources ont envie de préciser des choses. après le premier article, il y a d'autres choses qui arrivent. François de Rugy, nous, c'est drôle, par exemple, il nous reproche d'avoir mal, d'avoir
on recadré. On va pas refaire l'affaire François de Rugy, hein, le gros,
mais juste, voilà, d'avoir recadré des photos, alors que lui-même, on a montré factuellement que c'est lui qui avait envoyé des photos mal cadrées. Donc, en fait, on peut répondre à tous les arguments. À mon sens, le sujet de l'affaire de Rugy, c'est pas Mediapart. Le sujet, c'est pourquoi est-ce qu'un ministre utilise des fonds publics pour faire des dîners privés? C'est juste ça. Nous, ce qui nous motive, c'est pas tant la personne, on s'en fiche de la personne.
C'est juste, qu'il a reconnu, c'est juste, Dominique Prédalier.
Voilà, c'est juste dire, bah, François de Rugy utilise notre argent et l'argent du contribuable qui devrait, ce qui devrait faire consensus finalement, au lieu de partir dans des querelles de chapelle, se dire, bah, en fait, juste nous, on révèle quelque chose. Et d'ailleurs, Édouard Philippe a expliqué que maintenant, ils allaient édicter des règles beaucoup plus strictes. Donc, ça, rien que ça, ça valide la pertinence de
Je voudrais simplement revenir sur ces conflits auxquels on a assisté sur des plateaux télé. Donc deux journalistes qui se disputent avec des journalistes sur la bonne manière de faire du journalisme. Alexis Lévrier, est-ce qu'on peut pas aussi, est-ce que la presse, les médias doivent pas reconnaître une forme de responsabilité dans cette défiance quand elle donne ce type de spectacle de bataille de chiffonniers grenant?
Oui, bah après.
Est-ce qu'on est toujours à la hauteur de notre mission, voilà, quand on se tape dessus sur BFM ou sur une autre chaîne, est-ce qu'on est toujours à la hauteur?
C'est parfois un spectacle assez désolant, mais il y a quand même, moi, ce que j'apprécie chez les journalistes, on l'a bien vu avec les Gilets jaunes, c'est cette capacité à l'autocritique. C'est une profession qui sait qu'elle est détestée ou en tout cas très critiquée et qui est capable elle-même de faire son introspection, et elle l'a faite depuis le moment des Gilets jaunes, je trouve, avec beaucoup d'honnêteté. Après, ce qui se passe pour Mediapart, là, c'est que je crois qu'il y a beaucoup de détracteurs qui essayent de régler des comptes avec ce pure player, et pas simplement des politiques, il y a aussi des journalistes. Hein. Il y a un conflit entre qu'on voit bien en ce moment.
Je voulais une réaction.
Explique. Allez-y, je vous en prie.
Je vous en prie. Je voulais simplement une réaction d'auditeur que je raccourcis un peu. Jean-Michel Apathy qui dîne avec De Rugy, des journalistes qui invitent des représentants de think tank en se faisant passer pour des économistes alors qu'ils ne sont pas, etc. Est-ce que c'est pas la raison pour laquelle les journalistes sont haïs? C'est une question de Frédéric. Est-ce que tous les procès qui sont faits aux journalistes sont totalement infondés?
Non.
Alors là, moi, je trouve que dans
les procès en connivence, les procès en mélange des genres. Une réponse bref, après, on développera.
Je trouve très intéressant dans les révélations de Mediapart. Alors moi, le feuilletonnage me pose aucun problème. C'est la base du journalisme depuis le 19e siècle, de feuilletonner. Donc c'est reprocher à un journaliste de feuilletonner, c'est comme reprocher à un romancier d'écrire des livres. C'est à peu près du même ordre. Et Le Canard en fait la même chose pour l'affaire Fillon. Évidemment que les journalistes utilisent leurs armes. C'est tout à fait normal pour eux de feuilletonner pour créer un suspense. C'est tout à fait légitime. Mais dans les révélations de Mediapart, certaines peuvent être critiquables, mais la base quand même est fiable. Et c'est ces dîners privés aux frais du contribuable. Qui, et moi ça m'intéresse beaucoup puisque j'ai travaillé sur la question des relations entre presse et pouvoir, c'est des journalistes étaient présents et certains se vantaient, comme Jean-Michel Apathy, de jamais aller fréquenter les politiques. Alors il en était de dire qu'il avait eu tort, qu'il a compris dès ce soir-là, mais et que c'était pas sa place. Je crois qu'effectivement, même si évidemment les journalistes sont amenés à fréquenter les politiques, c'est inévitable, il faut mettre de l'ordre et mettre de l'éthique là-dedans et manger le soir comme ça à l'Assemblée nationale aux frais du contribuable. Quand on est journaliste politique, ça pose un réel problème.
Ah, il est 12h38, on écoute un petit John Lennon, Gimme Some Truth. I'm sick and tired of hearing things from uptight, short-sighted, narrow-minded hypocrites. All I want is the truth. Just give me some truth. I've had enough of reading things by neurotic, psychotic, big-headed politics. All I want is the truth. Just give me some truth. No short head, yellow belly, son of a tricky day.
minutes passées. John Lennon, merci. La programmation musicale du débat de midi qui est signée Elsa Béranger.
Le débat du midi. Nadia Dam sur France Inter.
L'objectivité n'est pas quelque chose qu'on peut espérer atteindre. C'est quelque chose vers quoi on se doit de tendre. On y tend par un effort, par une lutte contre ses propres préjugés, ses propres tendances, ses propres opinions. C'est une recherche de l'exactitude des faits, de la justesse dans le commentaire. Et au fond, elle exprime cette quête de l'objectivité, un aspect très important de l'information. Elle veut dire que l'information est un des visages de la connaissance et de la connaissance de la vie. Quand, au contraire, on dit que l'objectivité n'existe pas, il y a là quelque chose qui devient extrêmement dangereux, car on la remplace par son contraire, la subjectivité, et peut-être parfois toutes les fantaisies individuelles.
Très très bel archive qui date de 1976, vous avez peut-être reconnu Michel Legris, ancien grand reporter au journal Le Monde, c'était chez Bernard Pivot, à propos de son livre Le Monde tel qu'il est. Dominique Pradelier, je vous voyais sourire en l'écoutant.
Oui, c'est merveilleux de l'entendre. Je voudrais simplement rappeler qu'on a une charte d'éthique professionnelle nationale en France, qui est la seule, reconnue par tous les employeurs, malheureusement, qui la bloquent, mais pas dans le service public, elle est appliquée, etc. C'est la seule charte. Et elle dit, le droit du public à une information de qualité, complète, libre, indépendante et pluraliste, rappelée dans la Déclaration des droits de l'homme et la Constitution française, guide le journaliste dans l'exercice de sa mission. Cette responsabilité vis-à-vis du citoyen prime sur tout autre. Cela veut dire que le journaliste doit pouvoir s'opposer à ses hiérarchies, doit pouvoir discuter avec ses confrères et consoeurs, doit pouvoir imposer ce qu'il a vu sur le terrain. Et nous revenons au terrain, où par exemple sur certaines chaînes d'information en continu, on a nié la parole du terrain. Et c'est ça qui a déchaîné les violences.
Qu'est-ce que vous voulez dire
c'est
quand vous dites...
C'est ce Denis. Eh bien, c'est-à-dire que les jeunes journalistes, et là on vient aux manifestations des Gilets jaunes, mais c'était vrai avant du temps de la loi, des manifestations contre la loi travail, c'est-à-dire qu'on a nié le fait qu'ils étaient témoins. Et vous aviez en plateau des gens qui commentaient, en plateau, sans être allés sur le terrain, des images qui venaient du terrain, exactement à l'inverse de leur signification. Et c'est ça qui a rendu les gens fous furieux, et on les comprend très bien.
Alexis Lévrier, ce journalisme de commentaires, on peut l'appeler comme ça, est-ce qu'effectivement ça fait partie du problème?
Bah, disons que c'est sa prédominance qui pose problème. Il y a toujours eu un journalisme d'opinion, un journalisme de commentaires, et qui est distinct du journalisme des faits, qui consiste davantage à aller sur le terrain. Mais il ne doit pas y avoir une rupture entre les deux, et surtout une hiérarchie. Et en France, c'est dû à un tas de raisons, mais notamment au prestige du modèle littéraire. C'était souvent des hommes de lettres qui faisaient ce journalisme d'opinion. Eh bien, il y a toujours cette idée que celui qui commente en plateau est l'élite du journalisme. Et quand ces mêmes journalistes estiment que leur fonction est de surtout pas descendre sur le terrain, parce que si on prend Christophe Barbier que vous évoquiez tout à l'heure, il disait à des lecteurs du JDD en 2017, se confronter au terrain pollue l'esprit de l'éditorialiste. Je trouve ça très grave, parce qu'on est éditorialiste, qu'on doit être hors sol. Et donc je pense que c'est cette scission qui est dangereuse, et puis cette idée que l'éditorialiste, comme ça, proférerait des vérités incontestables du haut de sa place dans les studios ou de son rôle d'éditorialiste à la radio. Je pense qu'il faut valoriser les formes nobles du journalisme que sont le reportage, l'enquête, l'investigation. C'est celles-là qui permettront d'aller vers la vérité, vers l'exactitude des faits, beaucoup plus que le fait d'être derrière un bureau et de commenter l'actualité.
Alors, si on essaye de remonter à la source, est-ce que c'est faux de penser que finalement le péché originel ce serait le référendum de 2005 sur le traité constitutionnel européen? Parce qu'on se rappelle d'éditorialisme, de rédacteur en chef qui était unanimement ou quasi pour le oui, sauf qu'il le présentait pas comme une conviction intime, il le faisait en disant ce que je vous dis est vrai. Géraldine Moulman, est-ce que c'est là que s'est faite la fracture entre le public et la presse?
Pas tout
C'est-à-dire
à fait.
Qu'ils avançaient un peu cachés, on l'entendait, on a tous été témoins de ça, il y avait une campagne claire pour le oui dans la presse et qui n'était pas présentée comme...
Mais que des journaux s'engagent et donnent leur opinion... Ils le font d'ailleurs parfois à leur propre risque. Ils le font dans d'autres pays aussi. Je rappelle que le New York Times, prend une décision dans les élections présidentielles et soutient à la fin un candidat, dit clairement. Et que les éditorialistes, c'est leur boulot de dire ce qu'ils pensent et d'une certaine manière, ils pensent ce qu'ils pensent. Il y a le problème qui s'est posé, c'est d'abord qu'il y a eu effectivement un décalage manifeste entre la population, je dirais, des éditorialistes et ce que finalement la France a voté. Donc on peut se dire, tiens, est-ce qu'il y a suffisamment de pluralité dans le métier d'éditorialiste? Ça, c'est une vraie bonne question. Mais surtout, ce qui est devenu, et c'est là que le point est problématique, je ne sais pas si c'est cet événement qui l'a causé, qui a été le déflagrateur, mais disons que ça fait partie d'un courant qui s'est passé ces dernières décennies, c'est qu'on a eu, l'opinion publique considère que les éditorialistes, c'est le journalisme. Voilà. C'est-à-dire que les journalistes de terrain, ceux dont nous avons parlé là pendant savons bien que ce n'est pas vrai, que il y a plein de gens qui font du terrain, qui ont d'ailleurs des opinions politiques diverses, voire similaires à celles de certains éditorialistes. C'est pas la question.
Et même au sein des rédactions.
Mais il se trouve que dans ce pays, aussi pour des raisons historiques qu'a rappelé Alexis Lévrier, où le genre noble est longtemps resté l'éditorial. On a eu un moindre investissement de l'écriture de terrain par des figures littéraires. On a Albert Londres qu'on nous cite tout le temps, bien sûr, mais on n'a pas eu un mouvement comme le New Journalism aux États-Unis où les plus grands écrivains, Tom Wolfe, Norman Mailer, se sont mis à faire du journalisme de terrain. On n'a pas eu ça. On a eu ça au 19e siècle avec Eugène Sue, etc. Mais on n'a pas eu ça dans la deuxième moitié du 20e.
Et donc, c'est moins vu. À mon avis, il y a une fracture qui existe depuis très longtemps, qu'on aurait dû regarder avec plus d'acuité, c'est celle entre les journalistes et les habitants des quartiers populaires. Ça, c'est une fracture qui est très ancienne, parce qu'il y a cette idée de journalistes pleins de préjugés qui ne viennent que pour quand ça castagne, quand ça brûle. Et en fait, ça fait des années que c'est un débat. Déjà dans les années 90, il y avait ce débat sur la question du traitement journalistique des quartiers populaires. Et aujourd'hui, on voit que finalement cette défiance a contaminé toute la population. Et à mon avis, l'une des clés, c'est aussi la population journalistique. C'est les journalistes, enfin une grosse partie des journalistes appartient aux catégories supérieures, au CSP+.
C'est l'élite, c'est ce que vous...
Oui,
c'est ce que vous décrivez, et c'est l'accusation qui est faite aussi de gaz médiatique, d'élite médiatique.
Non, mais
ça dépend.
Aujourd'hui, les journalistes les plus en vue, il y a quand même un problème de diversité. Il y a un problème de diversité sociale, de diversité ethnique aussi, même si c'est un gros mot, qui fait que l'identification est compliquée. Quand vous voyez que des gens qui, quand vous êtes d'un milieu populaire, quand vous voyez des journalistes qui ne vous ressemblent pas, qui ne parlent pas comme
la
vous...
La question de la représentation.
Qui n'ont pas les préoccupations que vous avez au quotidien, c'est compliqué de faire confiance.
En fait, vous avez dit à Anna Massardier, en préparant l'émission, quelque chose d'assez intéressant. Vous dites, on n'exige pas la même objectivité de la part d'un journaliste homme blanc de 50 ans qu'aux autres, c'est-à-dire par opposition aux femmes ou aux racisés. Qu'est-ce que vous voulez dire par là?
L'étalon de l'objectivité, le journaliste qui peut traiter tous les sujets sans avoir de l'affect, du parti pris, du militantisme, c'est l'homme blanc de 50 ans. On considère que lui, on peut l'envoyer au Soudan, il fera un super job, qui peut parler de la PMA, qui a pas de problème, lui, il sera jamais concerné, jamais convaincu, enfin, orienté par des biais militants. Et dès lors que vous êtes une femme, si vous vous intéressez au sujet féministe, on va vous dire, ah bah t'es militante. Si vous êtes LGBT,
il y a une assignation à certains sujets.
Si vous êtes d'origine maghrébine, si vous voulez traiter par exemple du conflit israélo-palestinien, on va vous dire oui, mais toi t'es de parti pris.
Est-ce que c'est quelque chose que vous avez vécu, vous? On vous dit, vous pensez ça parce que vous appelez
évidemment,
Faïza Zerwala,
donc... l'accusation d'être militante alors que rien ne l'atteste. Moi, j'ai toujours fait un travail journalistique. Je respecte les règles. Je suis bien élevée, donc C'est très violent d'avoir cette accusation fondée sur rien du tout, juste parce que je m'appelle Faïsa Zerwala. Clairement, on me prête des opinions que je n'ai pas forcément, on me prête des biais que je n'ai pas, et c'est très violent en tant que, surtout quand ça vous arrive, quand vous êtes jeune journaliste et que vous n'avez pas forcément et que vous êtes précaire et que vous n'avez pas forcément les moyens de répondre, parce que ça peut vous mettre dans une situation complexe. Et ben, c'est très violent et c'est très injuste.
Dominique Pradalier,
oui, ce que vous dénonciez tout à l'heure depuis 2005 était très très intéressant. Pourquoi ? Parce qu'il ne s'agissait pas seulement des éditorialistes, mais vous avez un suivisme dans les éléments de langage qui sont utilisés maintenant par les éditorialistes, les présentateurs de journaux, télé, radio, par toutes les chefferies et par les animateurs des matinales, etc. C'est-à-dire que vous entendez les mêmes mots sans arrêt, comme s'ils étaient des vérités premières. Or, ce que l'on accepte de la part d'éditorialistes qui sont des gens engagés et tels que, on ne le supporte plus, et c'est très bien, de la part de tous les autres qui, eux, avancent masqués sans même parfois s'en rendre compte. Et nous, nous disons toujours, en matière de déontologie, il faut que les journalistes reprennent leurs mots à eux pour décrire les choses, pour parler des événements, que chacun reprenne ses mots à soi et non pas les mots d'une partie ou d'une autre. Et je crois que c'est un combat assez long à mener, mais qui nous amènera vraiment dans quelque chose qui sera mieux. Par ailleurs, il y a trois possibilités en France maintenant d'aider les journalistes à travailler. Une, c'est de nationaliser la charte, c'est évident, pour que tout le monde ait la même ligne de conduite. La deuxième, c'est de redonner aux rédactions une conscience collective juridiquement reconnue, qui puisse leur permettre de s'opposer aux actionnaires, aux employeurs qui sont la plupart du temps des milliardaires, aux publicitaires qui sont omniprésents et omniscients. Et puis la troisième chose, où nous militons pour depuis très longtemps au SNJ, un conseil de déontologie journalistique et de médiation nationale, qui serait là à vertu pédagogique pour entendre les plaintes posées, pour investiguer et pour émettre un avis public sur le ou journaliste ou le média a-t-il fait bien ou mal. Ça, c'est essentiel.
Alexis Lévrier, est-ce qu'il faut en effet, comme le suggère Dominique Pradalier, envisager la création de nouvelles structures, pourquoi pas, par exemple, une forme de conseil de l'ordre du journalisme?
Est-ce que
vous avez proposé, c'est la question que je pose. Est-ce qu'on peut envisager quelque chose qui ressemblerait à ça, comme ça se fait pour d'autres métiers?
Le problème, c'est que Cédrico a employé ce mot de conseil de l'ordre avant de aussitôt le rectifier. C'est le secrétaire d'État au numérique, qui se préoccupe donc notamment de ces questions-là. Et il a bien dit ensuite que ce qu'il appelait de ses voeux, c'était un conseil de déontologie et qu'il souhaitait une autorégulation de la presse. Et je crois que c'est là-dessus qu'il faut insister, Dominique Pradalier le disait aussi. Cette dimension d'autorégulation et de médiation me semble très importante et ça me paraît quelque chose de souhaitable. Ce qui m'inquiète, c'est l'utilisation que pourraient en faire les politiques. C'est ce qui se passe d'ailleurs en Belgique, hein, où un conseil de déontologie comme celui-là existe. Et les partis politiques peuvent se retourner contre les journalistes en utilisant cela, et il y a un risque de censure réel. Donc il faudra bien veiller à ce qu'il s'agisse d'une régulation de la presse par elle-même et non pas venue d'en haut et venue notamment du pouvoir politique.
C'est bien comme ça que nous travaillons d'ailleurs avec l'Observatoire de l'Information globalement et toutes les associations pour mettre sur pied une instance totalement indépendante. Je rappelle que le CSA ne l'est absolument pas, puisque ses membres sont nommés par les politiques. Donc il nous faut une instance paritaire avec la société civile, totalement indépendante. Et nous y travaillons d'arrache-pied.
Géraldine Mulman.
Et c'est pour ça qu'il vaut mieux éviter que ce soit un ministre qui nous en donne le conseil. C'est-à-dire qu'il y a un problème structurel dans le fait que l'exécutif... qui s'intéresse à ce sujet, les individus qui occupent l'exécutif à titre personnel, je l'entends très bien. Je pense qu'il faut faire très attention à une parole publique où le ministre suggère à la presse comment elle doit s'organiser, même si ensuite la note de bas de page, c'est vous auto-régulerez. Je crois vraiment là qu'il y a une décence démocratique, un respect du fait que c'est « it's none of your business ». Ce n'est pas votre boulot, les politiques, de faire ça.
Vous avez raison, ça fait plus de 10 ans que nous le demandons. demandons. Donc, vous voyez qu'on n'a pas attendu les ministres qui essayent de prendre un vent qui passe.
Hein. C'est la fin de ce débat, mais je voudrais juste signaler, Dominique Pradali, la réaction d'un auditeur. C'est Maxime qui vous dit « Je suis journaliste pour une agence de presse sous-traitante de BFM TV. Contrairement à ce que dit Dominique Pradali, des journalistes de terrain de BFM TV ont bien été agressés sur les manifestations des Gilets jaunes le samedi. »
Mais j'ai jamais dit le contraire. C'est une erreur. Excusez-moi si vous avez cru ça. Et non seulement ils ont été agressés, mais en plus le SNJ est aux côtés de tous les agressés que cet été par des gens se revendiquant des Gilets jaunes et surtout malheureusement beaucoup plus nombreux par les forces de sécurité. Donc désolé s'il a mal compris. Là.
Le débat de midi sur France Inter.
Donc c'est la fin de ce premier débat. Je vous propose d'aborder un deuxième débat, mais un débat virtuel. Avec quelle personnalité vivante ou disparue vous auriez aimé, vous rêveriez de croiser le fer de débat de Géraldine Mühlmann ?
Alors plutôt qu'un rêve, ce serait un fantasme. Et plutôt qu'un débat, ce serait une interview. Parce que j'ai aussi un tout petit peu
pratiqué
cette envie de faire quelques gestes journalistiques. Et donc, ça va peut-être vous paraître paradoxal, mais j'aurais aimé interviewer René Bousquet. Secrétaire général de la police du régime de Vichy. J'aurais aimé entendre susciter, si j'avais été une bonne intervieweuse, un récit sur comment on est un républicain radical socialiste très très loin des ligues d'extrême droite des années 30 et on se retrouve à organiser les rafles des juifs du régime de Vichy et comment qu'est-ce qui se passe dans cette tête ? Est-ce que c'est une froideur toute administrative ? Est-ce que c'est encore, et c'est très troublant à imaginer, un sens de l'État ? C'est quand même très troublant. C'est même terrible et insoutenable. Et j'aurais aimé aller chercher cet insoutenable.
Alexis Lévrier, en deux mots, parce qu'on est en retard.
Alors moi, je rêverais d'un débat avec Emmanuel Macron sur l'affaire Benalla. Affaire toujours pas terminée.
Vous n'êtes pas le seul, je crois.
Voilà, et j'aimerais lui demander pourquoi, un an après, il refuse toujours aux Français l'explication qu'il leur doit.
Faïsa Zerwala.
Alors moi, c'est très égoïste, ce serait évidemment Romain Gary. Je pense qu'il me raconterait à peu près n'importe quoi, mais avec beaucoup de panache.
Dominique Pradalier.
Moi, ce serait avec ma mère, une femme extraordinaire. Pas parce que c'est ma mère, mais parce que justement je l'ai trop ignorée, alors qu'elle nous a tout appris, le respect de la nature et la bienveillance vis-à-vis du monde et tous les êtres humains. Et je ne l'ai jamais questionnée, j'aurais dû la questionner beaucoup plus avant, elle était féministe. Par exemple, elle parlait du docteur Noël, dont on vient de rappeler quelle femme c'était, et nous ne l'avons jamais questionnée assez. Donc j'aimerais bien pouvoir le faire.
Merci à tous les quatre.